deux pas de chez toi.
Voir qu'on redonne des sourires, ça fait toujours plaisir.
Votre magazine de reportages, de témoignages, à la découverte de Reims, ses habitants, ses habitantes et de ses alentours.
Faire ce qu'on veut, quand on veut.
On rencontre des personnes différentes, très différentes les unes des autres. Et c'est génial aussi.
À deux pas de chez toi.
Pour qu'ensemble nous puissions créer un nouveau monde dans lequel les femmes sont plus solidaires, plus unies, pour créer un monde où règne l'amour, la solidarité, l'entraide.
Prenez le temps d'explorer ce qui se fait sur notre territoire avec Radio Primitive. Bonjour et bienvenue sur Radio Primitive dans À deux pas de chez toi. Au programme de notre émission cette semaine, Marie Rimbaud nous parle de son recueil de poèmes « Douleur d'aimer ». Mais juste avant, on reste sur notre quartier Orgeval et on va au tiers-lieu l'Oasis. Comme tous les organes, notre cerveau vieillit et la mémoire en pâtit. Et cela, dès 45 ans, d'après une étude « Science et Avenir » de 2012. Le 19 mai dernier, à l'Oasis, sur le secteur Orgeval, la ville de Reims organisait un atelier mémoire pour les seniors membres du dispositif 65+. Alors, on muscle nos cerveaux, tous et toutes ensemble.
Qu'est-ce qu'on va faire?
On va y avoir du coup, des jeux de société, un petit set avec des couleurs qu'il va falloir répéter. Le plus vite possible.
Ouais.
Et aussi une feuille avec des mots mais mélangés, où il va falloir retrouver le bon mot. Vous allez comprendre.
Partons à la rencontre de ces dames retraitées présentes ce jour-là et la raison de leur présence à cet atelier mémoire.
Parce qu'à nos âges, on a la mémoire qui flanche, donc
ah ouais,
quand on peut là. Hein.
Entretenir
la mémoire, ça, voilà. Oui, c'est bien.
Ouais.
Parce que nous allons déjà au Gobelin. On a déjà l'atelier mémoire tout.
Les Gobelins, c'est un arfo, c'est ça?
Oui, c'est ça. Et ça c'est nous ça plaisait semaine. Bien. L'animatrice est très capable. Hein. Oui. Et pour ça, on a dit, tiens, on va refaire un atelier mémoire ici, on verra.
Donc vous savez déjà ce que c'est un atelier mémoire? Vous
oui, j'ai déjà vu deux animatrices et elles ne procédaient pas de la même façon.
Non.
J'en ai eu une, elle nous projetait des choses pendant 30 secondes, enfin, je crois même, et puis après, il fallait se souvenir. Tandis que là, nous, on n'a pas de projection,
okay.
Mais on fait genre petit bac, on fait genre géographie, elle nous demande les capitales, les machins.
Histoire.
Des fois, c'est de l'histoire.
Ça dépend.
Les présidents, ça nous demande les présidents de la République depuis je ne sais pas quoi. Mmh.
Ah oui, c'est rafraîchir les souvenirs de l'école aussi.
Donc la mémoire, ça flanche, vous disiez.
Oh bah oui.
Il y a des trucs, ça ne veut plus.
Ah oui, ça revient après. Ça fait,
ah ouais.
Je dis, ça va être des cases qui se ferment, et puis après, elles se rouvrent dans le cerveau.
Oui, des tiroirs.
Ah, oui, des tiroirs. Oui.
Vous voyez quoi, on oublie tous, hein. On oublie tous.
Oui, enfin, ça s'accentue quand même bien. Ça s'accentue quand on est...
Ça vous fait... C'est quelque chose qui vous fait peur, qui vous questionne, qui vous...
Un petit peu quand même, en se disant... Mais quand on en parle avec des amis, c'est tout le monde, alors ça nous rassure un peu. Bon, je pense que ça fait partie de la vieillesse. Ça,
ouais.
Oui, oui.
Du coup, les dames, elles ont déjà fait des ateliers, vous aussi? Vous aviez déjà fait ça?
Oui, mais il y a longtemps. Il y a au moins une dizaine d'années quand j'avais déjà fait des ateliers, oui, mémoire.
D'accord.
Mais là, ça fait une dizaine d'années, non, donc j'en profite pour...
Vous en souvenez plus, quoi?
Oh non, non, non.
Avec l'âge et le vieillissement, le cerveau perd en effet des cellules nerveuses, ce qui altère la capacité des cellules à se multiplier, à se réparer, et la taille du cerveau diminue en conséquence. Certaines connexions se font donc moins bien. Alors il est normal de s'inquiéter quand on a l'impression que notre mémoire nous joue des tours. Mais on peut entretenir celle-ci si l'on travaille la plasticité de notre cerveau.
Il y a des choses en particulier qu'on oublie plus. Par exemple, vous, dans votre cas personnel, il y a des choses que vous oubliez plus qu'avant.
Ben oui, mais quand on voit bien le visage des gens, on n'arrive plus à mettre un nom dessus. Ou alors on est sûr d'avoir été dans une région, on ne sait plus dire le nom du village ou des choses comme ça.
Ouais. Ouais.
Beaucoup de jeux pour essayer de faire marcher tout ça quand même. Hein.
Bah, puis c'est plus sympa de manière ludique, quoi.
Bah oui, puis avec les 65 plus, c'est pareil, tous les jeudis, on peut faire des jeux de société, donc ça entretient
les
aussi.
Les aventuriers, c'est pas ça?
Oui, c'est ça. Ah oui, c'est sympa.
Du coup, le jeu, c'est vraiment un outil, quoi.
Bah oui, parce qu'on prend des jeux où il faut réfléchir un peu, où il faut... Oui.
Donc vous êtes déjà une habituée de 65 plus. Bah c'est bien, ça permet de rencontrer des gens.
Bah oui, des gens en plus. C'est sympathique, hein. Oui, mais ils font beaucoup d'animation quand même, je trouve, hein, pour les personnes, pour les soins.
L'offre que mis en place, ça vous...
Oh oui, tout à fait.
Vous y trouvez votre compte?
Oh bah oui, tout à fait, je trouve que c'est bien. Ouais. Oui, parce qu'il y a vraiment des choses diverses. Hein.
Ouais.
Aussi bien pour quand on est tout seul, comment pour le repas, comment faire des repas, pour quand on est... Hein, pour, je pense qu'ils ils essayent de nous aider dans notre quotidien. Oui, c'est très bien.
D'être accompagné quand
oui,
on
voilà.
Vit,
oui, voilà, c'est ça, oui.
L'isolement aussi peut favoriser la perte de mémoire, car avec les autres, on est plus stimulé. Et dans ce tiers-lieu, l'Oasis, divers ateliers sont organisés chaque semaine pour que les personnes du quartier se rencontrent sans distinction d'âge. L'Oasis, c'est un lieu où les générations s'en mêlent. Et c'est un visuel affiché à l'entrée du local qui le dit.
Le lieu à disposition, je suis en service civique à l'Oasis.
Comment ça se passe?
Oui, ça se passe bien. La coordinatrice du lieu, elle n'est pas là. Fulvie, elle n'est pas là aujourd'hui, malheureusement. Mais sinon, ça se passe bien.
C'est la première fois que tu accueilles des seniors à l'Oasis?
Non, c'est la troisième fois qu'ils viennent. Il y avait déjà un atelier mémoire et un atelier prévention routière.
Donc si ça se repasse, c'est qu'a priori, ça s'est bien passé?
Exactement. Oui, ça s'est bien passé.
Ouais.
Oui, Nathalie, c'est la deuxième fois qu'elle vient. Elle ne veut pas parler, mais c'est la deuxième fois qu'elle vient à l'atelier.
D'accord.
Revenons sur notre atelier mémoire avec une des participantes qui nous parle de ses inquiétudes personnelles.
C'est une crainte quand même, surtout quand là, vous avez un type d'épilepsie qui peut favoriser ça. C'est une crainte quand même.
C'est une crainte. Moi, je me dis, c'est le jour où je ne pourrais plus reconnaître mes enfants ou mes petits-enfants. Bon, après, moi, je ne m'en rendrai pas compte. Mais c'est eux qui vont souffrir. Ça me fait angoisser un peu. Après, pour moi-même, je travaille tant que je ne me perds pas dans le quartier.
Non, mais oui, c'est la charge qu'on pourrait devenir pour les autres, en fait, c'est ça?
Ah, ben c'est ça. Moi, je sais que ce que j'ai fait pour mes parents, moi, mon père, il avait Alzheimer à la fin. On ne les a pas placés, on s'en est occupé jusqu'au bout. Donc, c'était un sacrifice, mais un bon sacrifice, parce que c'était des bons parents. Mais j'ai pas envie que mes enfants le fassent pour moi. C'est malheureux, nous on l'a fait, mais on sait ce que ça coûte.
Nous découvrirons ensemble les activités proposées lors de cet atelier mémoire pour les 65+, juste après une petite pause musicale avec l'impératrice de la soul, Gladys Knight, et son morceau The Way We Were, Try to Remember.
Hey, you know, everybody's talking about the good old days, right? Everybody, the good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Come to think of it, as bad as we think they are, these will become the good old days for our children. But why don't we try to remember that kind of September when life was slow and oh so mellow. Try to remember. And if you remember, then follow. Oh, why does it seem that the past is always better? We look back and we think the winters were warmer, the grass was greener, the skies were bluer, and smiles were bright. Can it be that it was all so simple then? Or has time rewritten every line? And if we had the chance to do it all again, tell me, would we? Could we? Memory. Light the corners of my mind, misty watercolor memories of the way we were. scattered pictures of the smiles we left behind, smiles we gave to one another for the way we were. Time rewritten every line, and if we had the chance to do it all again, tell me, would we? What's too painful to remember? We simply choose to forget. So with the laughter, we will remember. With honor, we
sur Radio Primitive, aujourd'hui, on vous emmène à un atelier pour les personnes de 65 ans et plus, afin de travailler, stimuler leur mémoire. Après avoir discuté avec les participantes, nous vous proposons maintenant de découvrir le contenu des activités proposées cet après-midi-là par le service civique de la ville de Reims qui animait.
Tu leur donnes des noms, il faut trouver des anagrammes.
Voilà, en gros, eux, ils ont... Et là, ils doivent dire le mot.
D'accord,
vois,
c'est dur ou c'est pas dur en vrai?
Ça va. Donc du coup, il faut dire la fouleur. La fouleur qui...
Il faut lire le mot?
Non, il faut lire la fouleur du mot.
J'avoue que même moi, à cet instant-là, je n'ai pas tout compris.
Parce que là, par exemple, il est écrit rouge, mais c'est écrit en bleu. Alors du coup...
Faut dire rouge.
Faut dire rouge, voilà.
Du coup, on va commencer. Normalement, vous voyez l'image à l'écran, et il va falloir me dire, en fait c'est des images des années 70-80, et il va falloir me dire à quel endroit ça correspond selon vous.
Ah mais oui, c'est la piscine des Châtillons.
Piscine des Châtillons, avant la démolition on va dire.
En 70, quand j'ai appris à nager là. Moi, je suis au Châtillon depuis 1967, alors j'ai connu la piscine, tout ça, puis après, ça a été rebouché parce qu'il y avait un maître nageur, mais c'est une piscine, évidemment, découverte, et comme au mois de juillet, où ben, il ne fait pas toujours beau, on payait un maître nageur pour des prunes, quoi.
Ouais, ouais.
Alors, c'est pour ça que ça a été supprimé.
C'était plein air, comme ça, la piscine.
Oui.
Génial.
Ah, mais c'était bien, il y avait un maître nageur, hein. Il y avait une piscine ici, en général.
Ouais, elle était comme ça, comme découverte. Par la suite.
Bah dis donc, chaque quartier sa piscine, ça a changé. Hein.
Ouais, ouais, bien. Mais c'était que les jours de beau temps.
Ah, ça, c'est bien sûr. La tour, quoi, des Châtillons.
Oui. Bah oui, on voit la tour, c'est avant. Ouais, non, mais c'est à quel endroit dans le Châtillon?
C'est vers la résidence des personnes âgées. Vers maintenant la maison de quartier. La nouvelle maison de quartier. Boulevard Vasco de Gama.
Ah oui, je vois à peu près aussi.
Vasco de Gama, il traverse sous les Châtillons.
Ouais. Ça, pour vous, c'est quoi?
Alors, c'est quoi ce petit sourire, là? Je sais pas, ça me fait penser les bâtiments sur la droite,
ouais.
Mais... Je...
Ouais.
Hein?
Tout à fait.
Bravo, c'est les neuf et moi.
Ah, moi, j'ai travaillé, docteur Lemoine, par là. C'est pour...
Non, nous, on jouait dans ce coin, c'est le même quartier, c'est Orgeval, ouais. Mais il y avait Poincaré et il y avait 106. Il fallait pas se mélanger.
C'était
la garde des gangs. J'étais jeune, enfin la garde des gangs.
Oui, si.
Une personne ou deux qui se battaient, voilà.
Une rivalité entre les quartiers.
Bon, après, ça a été englobé.
Après la stimulation des souvenirs par des photographies, on passe au jeu.
Alors en plus de la mémoire, on teste la vue.
Exactement.
C'est ça. Oui, apparemment, oui.
Ça va aller?
Oui, ça va aller.
Normalement, c'est 7 cartes par personne.
Ce que vous avez sur votre carte, qui correspond à ça? Moi, j'ai la lune.
Moi, j'ai le petit chat.
Ah oui, mais c'est la première qui le dit. Hein.
Ah bon?
Oui,
ah
mais, oui mais c'est pour ça. Non, mais c'est un coup pour rien.
Oui, moi j'ai ça. Ah oui, d'accord.
C'est quoi le principe?
Double, ben, c'est un jeu où on a plusieurs symboles sur les cartes. On prend une carte et on doit trouver le même symbole que sur la carte.
D'accord. Vous voyez? Ok.
Et ben, c'est obligé d'avoir un symbole en fait. Du coup, il faut chercher, il faut prendre un peu de temps. Et voilà, mais c'est trop bien. Après, pour, c'est bien pour la mémoire parce qu'en fait, il faut prendre le temps de voir quelle carte il y a sur la carte du jeu et quelle carte on a dans nos mains. Du coup, il faut analyser tous les symboles et tout. Et franchement, c'est trop bien. Nathalie, elle n'aime pas trop parce que ça va trop vite des fois.
Et un président.
Un président.
Ok.
Donc, je les laisse là ou je mets.
Il faut les retourner, les mettre.
Du coup, un président, une jardinière. C'est bon?
Charles Dover.
La présidente.
Ah
la
dernière.
Oh, merde.
Tu as gagné.
Ouais,
ah oui,
allez, c'est
juste
à côté.
D'où l'utilité de faire des ventes au niveau de mars, là.
Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour entretenir sa mémoire. Cet atelier proposé par la ville de Reims faisait partie d'une série de rendez-vous proposés gratuitement par le dispositif 65+. Alors si ce type d'activité vous intéresse, n'hésitez pas à vous renseigner si vous avez plus de 65 ans sur le site de la ville de Reims. Le prochain atelier mémoire aura lieu le 8 juin prochain à la résidence 8 seniors à Saint-Thomas. Vous êtes toujours à l'écoute d'À deux pas de chez toi. Des poèmes qui parlent de douleurs amicales, de douleurs amoureuses, mais aussi familiales. Sur Radio Primitive, nous vous présentons Marie Rimbaud. À deux pas de chez toi.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je reçois au studio une jeune autrice de 23 ans, originaire de Charleville-Mézières dans le département des Ardennes, qui vient donc nous présenter son premier et nouveau recueil de poèmes intitulé « Douleur d'aimer ». Cette jeune autrice porte d'ailleurs un nom quasiment prédestiné. Bonjour Marie Rimbaud.
Bonjour à tous.
Alors merci d'être parmi nous aujourd'hui à Radio Primitive. Et tu vas nous parler de ton recueil de poèmes d'une centaine de pages qui a été édité par les éditions Maya, avec la particularité d'avoir été financé entièrement par des dons sur la plateforme des éditions Maya. Et ce recueil, Douleur d'aimer, il ne parle que d'amour. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus?
Bien sûr, alors d'amour, je dirais pas. Plus que c'est de la douleur amoureuse, amicale, en lien avec les ruptures, même familiales, tout ce qu'on ressent quand on a de la peine et qu'on ne sait pas vraiment quoi en faire finalement. Donc voilà, ce recueil, c'est un assemblage de plein de petits bouts de moi, de ce que j'ai ressenti quand... J'allais pas très bien. Donc c'est pas des recueils très grands, mais ils sont symboliques plutôt. Alors j'ai décidé de les faire éditer parce que c'était aussi nécessaire pour moi, pour essayer de guérir. Et je me suis dit que ça permettrait aussi à d'autres personnes de guérir et de se rendre compte qu'il n'y a pas que la douleur dans les ruptures et qu'il y a aussi, ça apporte finalement du bien. Et il y a toujours du bien dans la vie, même si on pense que chaque moment difficile, c'est la fin. Et non, il y a toujours une porte de sortie, il y a toujours la lumière dans l'ombre. Et c'est ce que je voulais vraiment faire retranscrire dans ce poème. Et je voulais aussi quand même remercier les éditions Maya pour eh bien, le soin qu'ils ont apporté à mon recueil et surtout de m'avoir fait confiance sur ce point-là. Et aussi merci à Radio Primitive de me recevoir aujourd'hui, bien évidemment, pour parler de ce recueil. Ça me fait énormément plaisir.
Eh bien, c'est nous qui te remercions d'être parmi nous aujourd'hui. Maintenant, j'aimerais que nos auditeurs puissent écouter... un extrait de ton poème. Est-ce que tu serais d'accord pour nous en lire un?
Pas de souci, avec plaisir, c'est un avant-goût.
Solitude de douleur d'aimer.
Tout recommence, me voilà encore seule, comme à chaque fois. Un jour, je suis encerclée et le lendemain, délaissée. Cela a toujours été. Je croyais que ça s'arrêterait, mais il faut croire que j'ai encore eu tort. Alors me voilà, assise seule, mangeant seule, seule avec moi-même, mes pensées qui me torturent l'esprit chaque nuit. Et tous les matins, je prie pour que ça change. Et tous les soirs, je me couche avec ma solitude. C'est elle, ma seule amie. Est-ce qu'un jour, ça s'achèvera? Un jour, deviendrai-je quelqu'un d'important? Quelqu'un pour qui la solitude est un souvenir?
Merci beaucoup, Marie, de nous avoir lu ces quelques vers. Tout à fait bouleversant. D'ailleurs, tu parles à la première personne et j'avais une question par rapport à ce « je ». Parce que comment est-ce que tu es arrivé à transformer ce « je », un « je » qui souffre, en une voix à travers laquelle les lecteurs, tes lecteurs, peuvent se retrouver ?
Je dirais que le « je », c'est très personnel. Moi-même, en tant que lectrice, avant quand même d'être autrice, j'aime particulièrement les romans, les livres qui sont écrits avec le « je » parce que je m'identifie plus facilement au personnage. Et c'est ce que je voulais aussi transmettre dans mon recueil, c'est d'écrire au « je ». C'est d'ailleurs plus facile pour moi d'écrire ce que je ressens quand j'écris à la première personne du singulier. Et je trouvais ça aussi plus important pour les lecteurs, pour qu'ils se mettent à ma place et qu'ils ressentent aussi cette douleur. Parce que finalement, le jeu, c'est le jeu de tout le monde. Donc tout le monde a aussi forcément cette douleur. Et c'est plus facile de lire un livre, un recueil de poèmes ou un poème en jeu qu'un poème en on. Ça rentre plus facilement dans les émotions, je dirais. Donc c'est plus facile pour s'identifier.
Tout à fait, il est vrai que l'on se reconnaît beaucoup mieux lorsqu'on a face à nous un roman ou un poème qui utilise la première personne. D'ailleurs, nous avons bien compris pourquoi le « je », mais pourquoi le poème ? Pourquoi le poème fut le meilleur réceptacle pour toi de tes émotions, plutôt que le roman ou la nouvelle ?
Pour moi, le roman, c'est plus une histoire... imaginaire qui naît de l'imagination, inventer des personnages, inventer leur histoire. Et les poèmes, c'est quelque chose de plus personnel qui naît de nos émotions, qu'elles soient joyeuses ou douloureuses. Et c'était plus facile pour moi d'écrire des petits poèmes sur mes douleurs que d'écrire un roman. Et d'ailleurs, je n'avais pas envie d'écrire un roman et de faire 1000 pages sur ce que je ressentais. Déjà, 100 pages, je trouve que c'est assez pour ma souffrance. Je ne vais pas l'étaler sur beaucoup plus de pages. Et donc, non, c'était beaucoup plus facile. Et les mots me viennent beaucoup plus facilement quand j'écris des petits recueils, quand j'essaye de... Enfin, des petits poèmes, pardon, quand j'essaye de les faire rimer, de trouver de jolies phrases, de jolies métaphores, c'est beaucoup plus naturel, en fait. Ça me vient aisément, facilement, sans réfléchir.
Comme beaucoup d'acteurs, d'artistes, en général, il y a une muse, quelqu'un qui nous inspire. Est-ce que toi, c'est pareil ? Tu as des personnes qui t'ont inspiré, je pense notamment à des poètes, ou même... des auteurs classiques qui t'auraient inspiré ?
Alors, non. Je l'ai vraiment écrit de moi-même. Mais si je dois dire quand même que j'ai été inspirée par l'écriture poétique, c'est notamment grâce à Rimbaud. J'ai un peu le nom prédestiné. Mais c'est vrai que quand j'étais plus jeune, donc au lycée, j'ai toujours adoré Rimbaud. Ça m'a donné envie d'écrire comme lui. Je me suis dit, j'en suis capable. Donc je pense qu'aujourd'hui, j'avais raison. Donc c'est ça qui m'a inspirée dans l'écriture de la poésie. Et j'ai aussi particulièrement d'affection pour Émile Zola, qui m'a aussi donné le goût et l'envie d'écrire des romans, d'écrire sur cette nature et de m'inspirer de la nature et de tout ce que je ressens pour les combiner dans un recueil de poèmes. Mais pour ce recueil-là, je me suis vraiment inspirée que de ce que je ressentais et pas d'autres inspirations poétiques. Après, c'est sûr, j'ai déjà lu des recueils de gens qui faisaient, qui parlaient un peu de ce qu'ils ressentaient, que ce soit de l'amour véritable. Donc je me suis un peu inspirée de toute cette collection de poèmes, de recueils de poèmes sur l'écriture de la vie, mais pas un auteur en particulier.
Cette nature qui justement t'inspire, peut-on la retrouver dans ton recueil par des métaphores naturelles qui viennent illustrer ce sentiment de perte ou d'autres sentiments que tu nous transmets dans ce recueil?
Alors, il y en a assez. Notamment, je pense à la lumière, parce que c'est vraiment ce qui m'est venu quand j'ai commencé à écrire plutôt un peu la fin du recueil. Cette lumière qui transperce les zones d'ombre. Donc il y a, par exemple, je pense à un de mes poèmes où j'évoque justement la flamme. Donc cette flamme, cette lumière qui brille. Donc je me suis vraiment inspirée de cette lumière. Mais aussi, j'aime beaucoup écrire par rapport au ciel étoilé, au ciel nocturne, vraiment aux forêts. Donc ça m'a beaucoup inspirée, ça se ressent aussi énormément. Mais j'aime beaucoup écrire une personne qui est seule dans la forêt ou qui regarde le ciel et qui justement comprend un peu les émotions qu'elle ressent. Et c'est surtout, ça s'inspire de ce que moi je fais quand je regarde le ciel ou quand je suis dans la forêt, dans la nature. Ça me fait ressentir tout un tas de choses et ça me fait aussi comprendre... Et ça me donne justement l'envie d'écrire. C'est quand je suis dans la nature ou quand je regarde le ciel, les étoiles, que là, oui, j'ai envie d'écrire, par exemple. C'est un peu une source d'inspiration, je dirais.
C'est ce qui expliquerait alors que tu arrives en fait à transformer la tristesse non plus en quelque chose de pesant, mais quelque chose qui arrive finalement à devenir beau ou lumineux.
Oui, c'est ça. J'essaie vraiment de combiner déjà la tristesse donc avec des mots qui ne soient pas forcément crus, donc des mots qu'on ne va pas retrouver dans un roman, par exemple, où la tristesse dans un roman, elle n'est pas forcément très romancée, elle est parfois bien crue. Mais là, dans le recueil, j'ai vraiment essayé de fondre cette tristesse avec des éléments naturels, comme avec de jolies rimes, en fait, de jolies phrases, de jolies métaphores. Et tout de suite, ça donne envie de lire le recueil, mais on ne se sent pas complètement bouleversé de là à vouloir en pleurer pendant des années, quoi.
On se pose une question. Quel a été le déclic? Est-ce qu'il y a eu un moment précis, une rupture ou quelque chose qui a transformé ta douleur personnelle en... une nécessité de poésie?
Alors, tout à fait. C'est pas très joyeux, évidemment, d'où un peu le style du roman. Mais il y a bien eu une rupture amoureuse, bien évidemment. Ça m'a complètement bouleversée. Et cette rupture, notamment parce qu'elle a amené par la suite à une rupture amicale. Donc j'ai été totalement délaissée, c'est le cas de le dire. Et donc d'être cette solitude, ça m'a vraiment ouvert la vanne en fait, de cette douleur intérieure que j'avais depuis quand même quelques années et qui était ancrée en moi. Et j'ai vraiment eu le déclic de me dire je ne peux pas rester comme ça, à me morfondre sur moi-même, c'est pas possible. En fait, j'ai des choses à faire dans la vie, je ne peux pas rester cachée dans l'ombre. Alors j'ai décidé de prendre mon stylo et d'écrire en fait, ce que cette rupture m'avait fait, ce que mes amis ou mes anciens amis, on peut dire ça comme ça, m'avaient aussi fait et ce que je ressentais face à cette solitude. Donc... une rupture amoureuse, rupture amicale et aussi une perte personnelle dans ma famille qui m'a aussi fait le déclic, qui m'a donné l'envie de publier ce poème parce que les deux derniers poèmes de ce recueil ont été écrits récemment, l'année dernière, suite à cette perte. Et ça m'a vraiment fait comprendre que j'avais envie que ce soit publié pour cette personne qui est maintenant dans les étoiles, pour aussi... le rendre fier. Donc, c'est un petit acheminement de plusieurs années qui a conduit à ce recueil aujourd'hui.
Tu t'ouvres à nous aujourd'hui et tu t'es ouverte dans ton recueil. Du coup, on est en droit de se poser, mais comment fais-tu? Est-ce que tu as peur? Est-ce que ça t'effraie que des gens puissent entrer de cette manière-là dans ta vie privée, dans ton espace intime, dans ton jardin, en fait?
Je mentirais si je disais que ça ne me faisait pas un petit peu peur quand même, parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à cacher, à protéger cette intimité. Mais en même temps, je suis extrêmement fière de me dire que ce que j'ai écrit, notamment, ça a plu donc à une maison d'édition. au point de vouloir les éditer, enfin d'éditer ce recueil, de l'imprimer. Et je me dis que ça, c'est vraiment une source de joie et de fierté de pouvoir avoir mon œuvre entre les mains et aussi de savoir que d'autres personnes vont pouvoir l'avoir dans les mains et vont pouvoir aussi bien potentiellement se relever de tout ce qui se passe dans leur vie. Donc j'avais peur au début, mais maintenant je suis extrêmement heureuse et en fait j'ai hâte d'avoir les retours et les avis sur mon recueil. Donc n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez, ça me ferait extrêmement plaisir.
C'est super, c'est une grande fierté d'avoir des lecteurs et des futurs lecteurs qui auront ton œuvre dans les mains. D'ailleurs, ce recueil, c'est une main tendue vers quelqu'un qui souffre, en fait. Et si il devait apporter un message, lequel serait-il ?
Ça serait l'espoir de rester dans la lumière, parce que dès que ça ne va pas dans notre vie, on a toujours tendance à vouloir se cacher, à ne pas vouloir sortir, à rester dans l'ombre, à ne plus parler à personne. Et c'est justement tout le contraire qu'il faut faire pour aller mieux et aller de l'avant. C'est vraiment de rester dans cette lumière, de montrer que tout va bien, qu'il y a toujours une porte de sortie. On n'est jamais seul finalement, même quand on se pense seul, on ne l'est jamais. Personne n'est réellement seul dans la vie. Alors oui, il faut rester dans la lumière, il faut essayer de... Je sais que c'est assez compliqué d'essayer de positiver, mais il faut toujours essayer d'avoir une phrase dans sa tête à se répéter tous les jours et se dire « je peux le faire, je peux rester dans la lumière, les zones d'ombre ne vont pas m'atteindre ». Et je pense que c'est aussi le message que je voulais faire passer dans ce recueil, c'est de toujours se diriger vers la lumière, de ne jamais oublier que d'accord, il y a des parts d'ombre, mais c'est pas définitif. Il y aura toujours quelque chose de beau qui nous attend et qui nous sourit. Parce que la vie est quand même assez longue, donc on peut pas rester que sur des défaites, c'est impossible.
Tout à fait, ne pas rester sur des défaites d'ailleurs. Question, est-ce que tu as eu cette belle victoire? Est-ce que ça t'a permis de guérir?
Alors oui, ça m'a permis de guérir. Tout ce qui était au niveau rupture amoureuse ou rupture amicale, je m'en suis totalement remise. Bien dit, je suis très heureuse dans ma vie. J'ai de nouvelles sources de joie, donc c'est vraiment le but. C'est vraiment le but ultime que je recherchais dans ma vie. Mais c'est vrai que j'ai toujours un peu ce petit pincement quand je repense à tout ce que j'ai écrit. C'était quand même pas facile, mais je suis quand même très heureuse d'être en arrivée là et de me dire que c'est une page finalement qui se tourne. Et je souris moi aussi en voyant les écrits parfois. Je sais pas si je les relirai tous, ces poèmes, mais je suis quand même très, très heureuse et très guérie, c'est le cas de dire. Je suis complètement guérie avec... Après cette écriture.
Tu nous expliquais une page qui se tourne et que tu étais heureuse. En tout cas, on est très content pour toi. Mais une page qui se tourne, mais j'espère pas pour ta carrière en tant qu'autrice. J'imagine que tu vas continuer à nous produire de nouvelles choses, peut-être un nouveau recueil sur ce nouvel élan, sur cette guérison. Quels sont tes projets futurs, Marie?
Alors, oui, quand même, quelques idées pour continuer mon aventure littéraire. Alors, si on part de la suite de ce recueil, j'ai pour idée de faire un peu l'antagoniste de cette douleur d'aimer et de plutôt faire quelque chose de plus joyeux, donc en m'inspirant des joies que j'ai aujourd'hui dans ma vie. Mais j'ai aussi... commencer à écrire un roman historique, donc forcément en lien avec les études que je mène aujourd'hui en histoire. Donc un roman historique qui va mêler mes passions de romance et d'histoire. Donc ça, c'est l'un de mes grands projets. Et j'ai aussi d'autres idées de livres qui émergent. Il me manque juste le temps pour pouvoir finaliser et concrétiser tout ça. Mais je n'ai pas fini ce recueil, c'est justement le début et c'est pas la fin de mon aventure littéraire, loin de là.
Eh bien voilà de sages paroles qui nous rassurent. Effectivement, le temps passe vite et j'ai une petite question qui intéresse tout le monde. où peut-on trouver ton recueil ?
Alors, il est déjà disponible sur les éditions Maya, notamment, mais aussi sur Amazon. Il suffit juste de taper « Douleur d'aimer » Marie Rimbaud, vous le trouvez facilement. Sur Internet, si vous tapez « Marie Rimbaud, Douleur d'aimer », vous pouvez le trouver sur plusieurs librairies en ligne. Il est également disponible en e-book sur les éditions Maya. Et pour le moment, je suis encore en pourparlers pour que ce recueil puisse être diffusé dans les librairies de ma région, ce qui serait totalement fantastique, et aussi pour tous les lecteurs qui veulent l'acheter dans les petites librairies indépendantes.
Eh bien, je n'ai qu'un seul message à envoyer à nos auditeurs aujourd'hui. Surtout, n'hésitez plus, Douleur d'aimer de Marie Rimbaud, R-A-I-M-B-E-A-U-X, que vous pouvez retrouver sur Internet, Amazon, la plateforme des éditions Maya, des librairies sur Internet et bientôt dans les librairies alentour de région Champagne-Ardenne. En attendant, merci beaucoup Marie d'être venue nous parler de ton parcours, de ton...